Ce 24 avril, c'est la fête de Fidèle de Sigmaringen, un avocat qui est devenu capucin, qui était le premier martyr, dit-on, de la propagande. Il est mort en 1622. C'est celui qui était inscrit au calendrier, mais je veux faire place aux femmes, il faut être poli. C'est la fête, aujourd'hui, de Sainte Marie Euphrasie Pelletier. Fondatrice du Bon Pasteur d'Angers, les sœurs du Bon Pasteur, qu'il ne faut pas confondre, on en a deux sortes de sœurs du Bon Pasteur au Québec. Je vais tout vous expliquer ça tout à l'heure. Celle que l'on célèbre aujourd'hui est une grande sainte, Mademoiselle Pelletier, qui s'appelait Rose Virginie Pelletier. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Rose Virginie Pelletier était la cinquième des huit enfants d'un médecin, le docteur Julien Pelletier, et de Madame Anne Pelletier. Elle est née en pleine Révolution française. Elle est née le 31 juillet 1796. La famille Pelletier avait quitté la maison familiale de Soulan. Et puis, en mars 1793, n'est-ce pas, pour s'enfuir au fond, parce que la révolution c'était épouvantable, c'est en pleine révolution, ils ont aménagé dans l'île de Noirmoutier. C'est une presqu'île, je l'ai vue, mais je n'y suis pas allé, j'étais au sable d'Olonne, en Vendée, au bord de l'Atlantique, au sud de la Bretagne. Puis on voyait l'île de Noirmoutier parce que elle est presque île à marée basse, puis elle devient une île. Un peu comme le Mont-Saint-Michel, quoi. Et sur l'île de Noirmoutier, bien, ils ont espéré vivre en sécurité. Parce que Madame Pelletier était dans la liste noire des autorités civiles, parce qu'elle avait caché un prêtre, tout simplement. Cacher un prêtre durant la Révolution était un des pires crimes, hein. La mort était la punition donnée à quiconque cachait un prêtre. En aurions-nous caché? On peut se poser la question, mais elle l'a fait, sa mère. La mère de Rose Virginie, qui est baptisée le jour même de sa naissance. Elle est baptisée après avoir évidemment tiré les rideaux, verrouillé les portes. C'est pas facile, hein? Ça rappelle les messes que l'on célèbre en Arabie Saoudite. On les célèbre comme ça, en tirant les rideaux, en verrouillant les portes, pour les employés, mettons, de la compagnie Bell qui travaille en Arabie Saoudite, car il ne faut pas célébrer de messe. Curieux. Un an plus tard, après ce baptême, on complète ce baptême en le faisant plus solennellement par un prêtre. C'est un prêtre. Mais c'est curieux, cette sainte, vraiment canonisée, on n'a pas d'acte de baptême officiel. C'est assez étonnant, hein? C'est une fillette heureuse que Rose Virginie. Elle grandit d'ailleurs dans un foyer qui manque pas d'amour. C'est plein d'amour dans ce foyer. Ça se répand abondamment autour de la famille et évidemment au cœur de la famille. Parce que Rose Virginie vraiment est entourée de l'affection de ses parents, de ses frères, de ses sœurs, hein? Et c'est une enfant qui aime cette île. C'est une enfant, dirait-on, du grand large. Hein? Elle aime cette création de Dieu qui l'entoure sur cette île, les sables magnifiques, les plages superbes. Elle le rencontre dans la nature, dans les arbres, dans les fleurs, surtout dans les vagues de l'océan. C'est très émouvant quand on est au bord de l'Atlantique. Hein? Beaucoup d'entre vous, vous y êtes allés. Cette puissance incroyable de la mer, de l'océan. Alors elle passe des heures heureuses, puis de longues heures d'ailleurs, sur les plages sablonneuses de son île natale. Elle jouit des vents et des brises qui caressent ses cheveux. Puis ces vagues qui l'aspergent, après s'être frappée souvent contre les rochers. C'est vraiment fascinant, hein? Moi j'aime beaucoup la mer. Dans sa grandeur, sa puissance, comme ça. Alors, Rose Virginie Pelletier a de l'audace. Elle a du leadership aussi auprès de ses compagnes de jeu. Elle a des espiègleries qui sont propres aux enfants de tous les temps. Elle est normale, tout à fait normale. Elle est sans peur. Elle est très déterminée, puis elle est prête à prendre des risques. On peut dire que c'était des dispositions déjà qui sont très utiles dans le gouvernement de sa congrégation pendant plus de 40 ans qu'elle va diriger cette congrégation. Petite fille affectueuse, elle donne, elle reçoit volontiers aussi des marques de tendresse et dès son jeune âge, elle aime profondément l'Église. Elle l'apprend de son père et de sa mère. Elle aime spécialement le pape, le Saint-Père. Elle prie pour lui tous les jours. Elle apprend de ses parents aussi à manifester de la compassion et de l'attention aux pauvres, puis aux sans-abri. Car cette congrégation du bon pasteur qu'elle va fonder, la congrégation de Notre-Dame de Charité du bon pasteur, qu'on appelle souvent le bon pasteur d'Angers, est vraiment une congrégation penchée sur les femmes qui souffrent particulièrement. C'est formidable ce qu'elles font ici au Québec et même à Ottawa. Elle accompagne sa mère, cette petite Rose Virginie, elle l'accompagne dans le soin des plus pauvres. Elle apprend déjà qu'ils sont membres du corps mystique du Christ. Elle reçoit une excellente formation religieuse de son père et sa mère. D'ailleurs, elle voit dans son père la tendresse de Dieu pour l'humanité qui souffre, car son père est très bon pour les pauvres. Et elle reconnaît là Dieu le Père. C'est beaucoup mieux que des gens, on entend ça parfois, hein, Dieu le Père, ça leur fait peur, parce qu'ils ont eu un mauvais père, ils ont eu un père trop silencieux, ou qui maugrée, qui boit, etc. Et le mot père n'a pas de sens pour eux, pas de sens de tendresse, de bonté. Elle, c'est le contraire. Alors son amour envers les personnes malheureuses va toujours en augmentant, et en 1805, une de ses sœurs, Victoire Émilie, qui est très proche d'elle par son âge, meurt. Ça la rend inconsolable. Et deux autres de ses amis étaient décédés juste avant. Vous savez, dans ce temps-là, au début du 19e siècle, ou au siècle dernier, on mourrait facilement. J'ai une de mes tantes, moi, qui est morte à 16 ans, en 1896. Beaucoup meurent comme ça, à cette époque. Alors, l'année suivante, son père meurt lui-même. Elle n'a que 10 ans. Et elle aimait beaucoup son père. Elle aime beaucoup sa mère. Elle ne fait jamais les choses à moitié. En pleurant son père qui est mort, elle accompagne sa mère dans la douleur. Elle partage la douleur de sa mère. Elle sait consoler sa mère. Et peu de temps après cet événement, bien, sa sœur aînée, Anne Joséphine, quitte le foyer pour aller demeurer avec une tante sur le continent, c'est-à-dire en France, laissant Rose Virginie comme principale dans la famille pour réconforter, consoler leur mère. En 1807, 2 ans plus tard, Rose Virginie fait sa première communion. Plus tard, elle dira à ses sœurs qu'elle a entendu ce jour-là pour la première fois l'appel de Jésus qui l'invitait à une relation intime avec lui, en faveur des personnes qui souffrent. C'est pas une relation intime avec Jésus, simplement pour Jésus, une complaisance, non. C'est un appel vers Jésus qui est présent dans les personnes qui souffrent. C'est vraiment du christianisme total. Et pourtant, elle est toute jeune. Et du plus profond de son être, elle répond à cet appel initial. Et elle murmure, « Me voici, Seigneur », car elle connaît déjà la Bible. L'année suivante, l'évêque est venu pour la première fois sur l'île de Noirmoutier, depuis la Révolution, la première fois. Et Rose Virginie reçoit une nouvelle effusion de l'Esprit-Saint en recevant le sacrement de confirmation. Elle le ressent profondément. Et quelques mois plus tard, les sœurs Ursulines de Chavagne arrivent du continent à Noirmoutier pour diriger une école sur cette île. Et Rose Virginie s'y inscrit, l'une des premières. On la voit chaque jour, s'achemine vers l'école, sa soif d'apprendre est satisfaite, mais à quel prix? Elle aurait bien préféré courir dans l'île. Elle aurait préféré passer des heures sur la plage. D'être un peu libre comme un oiseau. Et alors les sœurs découvrent dans cette petite fille, cette jeune fille, un talent. Puis une habileté remarquable. Alors elles mettent beaucoup d'espoir en elle. Elles s'espèrent qu'elle va rentrer chez les Ursulines. Et parfois, toutefois, cette petite fille les inquiète. C'est un tour un peu original. Pendant ce temps, elle parle souvent de son intention de devenir religieuse plus tard. Mais elle est assez intelligente pour savoir qu'avec son caractère, elle devra être, comme elle dit, brisée. J'aime pas le terme. J'aimerais mieux sublimer. J'aime pas le terme brisée. Ça me gêne toujours dans les textes spirituels. Mais c'est au cours de l'écart de ces années vécues avec les Ursulines, comme élève, que son amour pour la Bible se développe et s'approfondit, spécialement pour le Saint-Évangile. Qu'elle médite. Elle médite ça très longuement. Elle aime les paroles qui sortent de la bouche de Jésus. Et avec la compassion, la chaleur, la tendresse de son cœur, elle s'identifie avec l'amour, la miséricorde de Jésus. Jésus qui manifestait tant d'attention envers Marie-Madeleine. Ça la touche beaucoup, ça. Et c'est ce qu'elle va faire plus tard. Jésus qui manifeste aussi de l'attention envers la Samaritaine, envers Zachée, envers la femme adultère. Et tout cela suscite en elle une réponse, un écho dans son cœur. Et en 1810, sa mère, Madame Pelletier, décide de quitter l'île de Noirmoutier et de retourner à Soulan. Elle pense que l'école de l'Association chrétienne de Tours, qui est dirigée par une amie d'enfance, Madame Choblet, c'est, voilà, exactement une école qui convient à sa fille. Alors Rose recevrait là une solide éducation, puis en plus le règlement d'un pensionnat avec sa séparation des siens, ça pourrait modeler puis discipliner sa fille qui commence à montrer des signes d'un caractère un peu obstiné. Alors c'est donc le cœur gros que Rose Virginie Pelletier, la future sainte Marie-Euphrésie Pelletier, fondatrice, comme je vous ai dit tout à l'heure, de la congrégation de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur, les Sœurs du Bon Pasteur, comme on les connaît, eh bien c'est là que le cœur gros, bien heureuse Virginie, dit adieu à son île natale. C'est un adieu un peu triste, hein, tout ce qui lui était si cher, sa mère, sa maison, la tombe de son père, ses amis d'enfance, les sœurs Ursulines qui lui ont enseigné, beaucoup d'autres personnes. On a dit que pour vraiment connaître quelqu'un, on doit avoir vu où les raisins ont poussé. Alors, ceux d'entre nous qui ont le privilège de visiter Noirmoutier ont beaucoup appris sur elle à partir de son île. Moi, je ne connais que les sables de l'Aune tout près, mais je comprends. Et Rose Virginie a ressenti profondément la séparation d'avec sa mère. Quand elle l'a embrassée, pour aller s'enfermer dans un couvent pour étudier. Au moment de l'adieu, elle ne se doutait sûrement pas qu'elle ne se rencontrerait jamais plus sur cette terre. Elle avait déjà la vocation, elle avait entendu l'appel de Jésus. Et les yeux fixés sur lui, elle va entreprendre courageusement cette nouvelle étape de sa vie. Dans ses jours à l'association chrétienne, à Tours, ne sont pas heureux. Madame Choblet, qui est une amie d'enfance de sa mère, je vous l'ai dit, avec de bonnes intentions, ben, c'est pas agir là, convenablement avec des adolescentes. Mais Rose Virginie en souffre beaucoup. Mais heureusement, il y a là Mademoiselle Pauline de Lignac, qui devient très amie de Rose Virginie, plus âgée qu'elle, de seulement 5 ans. Pauline de Lignac est une jeune femme d'une personnalité exceptionnelle. Et leur amitié va durer toute leur vie. Au pensionnat, donc, pendant une période particulièrement difficile, Rose Virginie Pelletier influence un groupe de filles qui sont sur le point d'organiser une espèce de rébellion en forme. Oui, ça existait déjà dans ce temps-là. Ouais. Alors, elle se joint à elle. Et qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle prie pour elle et avec elle. Alors, elle les écoute. Elle se fait finalement agent de réconciliation, si on peut dire. Elle rétablit la paix. Elle leur demande, au nom de Jésus-Christ, de se réconcilier, ce qu'elles font finalement bientôt. En 1813, Rose Virginie Pelletier doit porter sa plus grande croix. Elle n'a pas vu sa mère depuis plus de 3 ans. Et elle ne doit plus jamais la revoir. Sa mère était usée par les souffrances de la Révolution française, évidemment, et par la mort prématurée de son mari et de plusieurs de ses enfants. Et alors, Madame Pelletier meurt, et Rose Virginie n'est pas à son chevet lors de son décès. Elle ne peut même pas aller à ses funérailles. Ça l'affecte beaucoup. Elle se sent orpheline. Elle a perdu son père et sa mère. Elle se sent seule, elle se sent abandonnée. De plus, son frère Constant est décédé l'année précédente. Alors c'est Pauline de Lignac qui vient la réconforter. Mais bientôt, elle aussi doit quitter Rose Virginie. Il lui était impossible de vivre en paix sa relation avec Jésus dans cette association chrétienne. Curieux, difficile de vivre une relation avec Jésus dans l'association chrétienne. Bien oui, mais ça s'appelait comme ça, l'association chrétienne. Alors, elle décide de devenir ursuline, c'est-à-dire cloîtrée ursuline, comme Marie de l'Incarnation à Québec, dont je vais vous parler bientôt. Alors, elle espère qu'un jour, Rose Virginie va la suivre au couvent. C'est un choc terrible pour Rose Virginie. Elle souffre en silence et jour après jour, bien, elle suit les pas que lui montre Jésus. Elle endure la souffrance et elle sublime tout avec l'amour. Rose Virginie prend conscience que l'heure est venue. Elle prie, elle réfléchit sur des textes de la Bible et elle demande les lumières du Saint-Esprit pour l'aider à choisir une congrégation. Or, elle est profondément sensible à la souffrance humaine, je vous l'ai dit. Et à Tours, il y a une communauté de Notre-Dame de Charité du Refuge. C'est pas bête comme Notre-Dame de Charité du Refuge. C'est une congrégation fondée par Saint-Jean-Eudes. En 1641, je vous ai déjà parlé de Saint-Jean-Eudes, j'y reviendrai. C'était le 18 août que je vous en ai parlé. Alors ces religieuses-là aident les filles et les femmes qui ont besoin de sentir dans leur vie la tendresse de Dieu. C'est pas d'aujourd'hui que l'Église se penche sur ces femmes. On le fait encore beaucoup à Montréal et partout dans le monde. Leur mission s'adresse aux personnes marginales, qui ont des problèmes de personnalité, de comportement, des difficultés familiales, sociales aussi, et des besoins particuliers d'attention, ou d'éducation, d'amour, puis de compassion. Et c'est ça qui va nourrir toute la vie de Sainte Marie Euphrasie Pelletier, qui s'appelle à ce moment-là Rose Virginie. Malheureusement, le nombre des sœurs à Tours dans ce couvent a beaucoup diminué pendant la Révolution. Elles ont été dispersées, peu nombreuses. La majorité est d'âge avancé, comme dans nos congrégations aujourd'hui au Québec. Alors elles ne peuvent que presque plus s'occuper de leur institut. Elles vivent très pauvrement. Vous savez qu'aux États-Unis, c'est plein de sœurs qui vivent dans une extrême pauvreté. C'est tragique. On lit des articles à ce sujet, on ne peut pas croire qu'aux États-Unis, les vieilles sœurs n'ont plus rien. Elles ont tout donné et elles meurent dans une extrême pauvreté. Elles sont les dernières de leur congrégation. Alors Rose Virginie Pelletier connaît ses sœurs et leur mission, puis elle comprend que c'est là que Dieu l'appelle. Alors elle prie, elle réfléchit, elle demande conseil. Et vers la fin de 1813, bien, elle écrit à sa sœur Anne-Joséphine et à son beau-frère, M. Marsan, qui est son tuteur, parce qu'elle est jeune encore. Et elle leur manifeste son désir de devenir sœur du refuge, comme on disait. Alors, à sa grande surprise, on lui refuse cette permission. On lui suggère une autre congrégation. Son beau-frère, le monsieur Marsand, M-A-R-S-A-N-D, ne veut pas que sa jeune belle-sœur entre dans la communauté du refuge. Évidemment que la réponse de ses parents, le docteur et sa femme, ça aurait été bien différent. Et eux qui se préoccupaient tellement des malheureux. Alors, quoi faire maintenant? Il s'agit de prier, puis d'espérer, c'est tout. Son caractère déterminé l'a bien servi, toutefois. et elle décide d'obtenir une entrevue avec la supérieure du couvent du refuge pour lui demander son appui et ses prières. Alors la supérieure reconnaît-la dans le cœur de cette Rose Virginie Pelletier, la valeur, une grande valeur. Elle voit que cette jeune fille qui la visite est quelqu'un d'extraordinaire. Alors, elle lui promet de l'admettre dans sa communauté à condition qu'elle obtienne évidemment le consentement de son beau-frère et de sa sœur. Son beau-frère qui est le tuteur. Alors, en 1814, à 18 ans, Rose Virginie visite sa sœur et son beau-frère et elle obtient finalement le consentement de son entrée au couvent moyennant une condition. C'est-à-dire qu'elle ne prononce pas ses vœux avant l'âge de 21 ans. Elle est très heureuse de ce consentement et de cette condition. Alors elle retourne toute joyeuse à Tours. Tours, hein, c'est une ville importante pour nous du Québec. C'est de là que vient Marie de l'Incarnation de Québec. C'est de là que viennent beaucoup de gens, les Tourangeaux en particulier, mais tous ces gens qui viennent de cette région. Alors le 20 octobre 1814, Rose Virginie Pelletier entre au couvent de Notre-Dame de Charité du Refuge. Et ce jour est une grande fête pour les sœurs qui célèbrent le divin cœur de Jésus. C'est une solennité inaugurée par leur fondateur, Saint Jean Eudes, et qui s'est propagée dans toute l'Église. Alors quelle belle journée pour entrer au monastère. Son cœur brûle d'amour pour les personnes en difficulté. Elle est habitée par ce toute jeune. Elle est en union avec le cœur de Jésus. Au moment où elle franchit, toute joyeuse, le portail du couvent. Cet amour va aller grandissant chaque jour. Et ses dons de nature et de grâce vont devenir de plus en plus apparents. Je me souviens d'avoir vu une jeune fille très belle, qui devait avoir 19-20 ans, qui entrait au Carmel de Montmartre. C'était extraordinaire de voir ça, sa mère qui pleurait, son frère qui pleurait. Mais finalement, sa mère a eu un grand sourire quand elle a vu sa fille passer le portail. C'est pas facile, hein? Rose Virginie Pelletier, donc, a reçu l'habit de la congrégation, puis un nom nouveau, le 8 septembre, on a fait de la nativité de Marie, le 18 en 1815. Il ne faut pas oublier que les sœurs changent de nom. Il y a des religieux aussi qui changent de nom. D'où ça vient, ça? Dans la Bible, quand Dieu appelle Abraham pour être le père d'une grande nation, il a changé son nom en Abraham. Quand Jésus appelle Simon pour... Il lui demande de tout quitter pour le suivre, il lui change son nom en Pierre. Oui, il s'appelle Pierre, dorénavant. Donc, change de nom. Alors, Rose Virginie sera désormais connue sous le nom de Sœur Marie Euphrasie. Euphrasie, c'est le nom d'une veuve, une très grande sainte des premiers siècles, qui est fêtée le 13 mars. Je vous en parle l'année prochaine. Il y a d'autres Euphrasies aussi. D'autres saintes Euphrasies. Alors, elle va réaliser de grandes choses pour Dieu. Après Jésus, son plus grand amour, c'est pour les filles et les femmes confiées aux soins des religieuses. Elle est heureuse avec les sœurs de sa communauté du refuge. Et celles des sœurs l'aiment beaucoup. Son enthousiasme, sa joie, sa jeunesse sont pour elle une espèce de tonique, hein, parce qu'elles ne sont plus tellement nombreuses, mais elles sont vieillissantes. Chacune est l'objet de ses prévenances. Elle les aime bien, ces vieilles sœurs, et avec quelle attention elle les écoute raconter leur expérience au temps de la Révolution et dire comment la grâce travaille les cœurs blessés. Et là, le 9 septembre 1817, Rose Virginie promet, pour toujours, de vivre ses vœux à la suite du Christ. Elle sera chaste, elle sera pauvre et elle sera obéissante, comme le Christ. Alors, étant novice, elle a déjà fait le vœu privé d'obéissance. Un événement plutôt inusité, ça. Mais c'est pas surprenant quand on connaît la personnalité de cette jeune fille. En plus, elle émet le vœu de travailler au salut des âmes, et ce vœu de zèle, qui est particulier aux sœurs de Notre-Dame de Charité du Refuge et du Bon Pasteur aujourd'hui. Ça résume l'amour de Dieu, hein? Travailler au salut des âmes, c'est ça aimer Dieu. On met ça en action. À moins qu'on soit contemplatif et contemplatif. Mais là même, il faut beaucoup aimer les membres de la communauté. Alors jusqu'en 1825, à 29 ans, Sœur Marie Euphrasie va œuvrer auprès des filles et des femmes qui sont confiées aux religieuses. Elle cherche à découvrir la beauté de l'image de Dieu en chaque personne en contact avec elle. Elle veut révéler la dignité de ces gens en leur apprenant qu'elles sont créées à l'image de Dieu. En 1825, Dieu l'appelle à une autre forme de service. Et les sœurs vont l'élire supérieure. Elle n'a encore que 29 ans. Nous commémorons l'anniversaire de l'entrée au ciel, du décès, de Sainte Marie Euphrasie Pelletier, fondatrice des Sœurs du Bon Pasteur d'Angers. Officiellement, c'est la congrégation de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur. Elles sont établies dans plus de 550 communautés fraternités dans le monde, regroupées en 47 provinces. C'est une communauté internationale. Elles sont dans 60 pays. 60 pays. Au Québec, elles sont à divers endroits. À Port-Cartier, c'est elle qui s'occupe des familles des détenus. Elles sont à Amos. Elles ont deux résidences pour femmes en difficulté à Montréal. Elles ont aussi le centre Blanche LKAN au 170 Est rue Sherbrooke. C'est pour les jeunes, ça. Pour aider les jeunes, 843-8833. Comme vous voyez, nous les avons ici depuis longtemps, depuis 1844, je crois qu'elles sont à Montréal. Alors donc, nous avions laissé la fondatrice, Sainte Marie Euphrasie Pelletier, à 29 ans, nommée supérieure. Alors, comme animatrice spirituelle de la communauté, bien, elle veille au progrès de ses sœurs. Elle est au milieu d'elle comme celle qui sert. Elle agrandit le couvent, les pavillons. Elle dote chacune des sœurs de plus d'espace pour y vivre. Et elle fonde une branche contemplative. C'est assez fantastique au sein de la congrégation. Oui, il y a une branche contemplative. Les sœurs du Bon Pasteur, je me souviens, quand j'étais jeune, j'ai pensé que c'était des sœurs cloîtrées uniquement. Et elles sont très fières de cette branche de contemplative. En 1828, trois ans après avoir été nommée supérieure, sœur Marie Euphrasie est réélue supérieure du couvent de Tours. En France, évidemment. Et combien de transformations ont lieu pendant les trois dernières années? Les édifices imposants qui remplacent de vieilles bâtisses en ruine. L'institution est remplie à pleine capacité de jeunes filles qui sont désireuses de répondre à l'appel de Jésus. Au lieu de niaiser, elles décident de faire quelque chose de leur vie, quoi. Elles entrent dans une profonde relation avec Jésus, en faveur de ce peuple qui souffre. Et ces jeunes filles frappent donc à la porte du noviciat, sans arrêt, pourrait-on dire. Le couvent de Tours est très prospère, et le nom de cette toute jeune supérieure devient connu, un peu partout, même au loin. L'évêque d'Angers, lui, désire un couvent du refuge, des sœurs du refuge, dans sa ville épiscopale. Alors il invite sœur Marie Euphrasie, qui est supérieure du couvent de Tours, à y faire une fondation. C'est Madame d'Andigné qui a suggéré son nom à l'évêque. Cette dame, c'est une riche personne, brillante, intelligente. Elle avait admiré le zèle et la compétence de Mère Marie Euphrasie. Et plus tard, elle va faire tout en son pouvoir pour encourager cette sainte, en l'accompagnant même dans ses longs voyages, voyages très fatigants à travers la France et même jusqu'à Rome. N'oublions pas qu'il voyageait en diligence dans ce temps-là. C'était très dur. Les maisons de la congrégation de Notre-Dame de Charité du Refuge sont autonomes. Alors, une fois fondées, chacune doit pourvoir à ses besoins, doit s'auto-gouverner. Alors, elle consulte les sœurs au sujet de la demande de l'évêque. Puis elle fait face à une forte opposition. Alors, elle prie, puis elle attend. Éventuellement, son conseil d'administration consent à ce qu'elle aille à Angers avec une sœur pour évaluer les possibilités de fondation. Alors elle s'y rend, elle reçoit une chaleureuse bienvenue de la part de Monseigneur, Monseigneur Montaud. Elle rencontre pour la première fois le comte Augustin de Neuville. La mère de ce comte de Neuville vient de mourir. Elle lui a laissé une somme d'argent pour l'achat d'une propriété. Une propriété qui serait capable d'abriter une communauté religieuse, dont le but, ou la mission, ce serait le soin de d'aider les blessés, les femmes blessées de la vie. Madame de Neuville, c'est-à-dire Monsieur de Neuville, plutôt, le comte de Neuville, va appuyer Sainte Marie Euphrasie Pelletier pendant toute sa vie. Il va même aimer se donner le titre de père du bon pasteur, puisque la congrégation qu'elle va fonder, en ralliant les différents couvents du refuge, ça va finir par fonder le bon pasteur, ça. Alors, avec enthousiasme, ce comte offre sa personne, son temps, sa fortune, sa prière même, en faveur de l'œuvre de la fondation d'Angers. Sœur Marie Euphrasie visite donc l'emplacement qu'il lui propose pour son couvent, son institution. Ça lui plaît. Alors, il est vrai qu'il va y avoir beaucoup de transformations qui vont être nécessaires pour rendre tout ce projet viable. Mais elle n'hésite jamais devant un défi. Alors, elle retourne à Tours, convaincue que c'est la volonté de Dieu de fonder à Angers. C'est pour ça qu'on les appelle maintenant les sœurs du bon pasteur d'Angers. C'est comme les sœurs de Saint-Paul de Chartres. Nous avons ici une sœur de Saint-Paul de Chartres qui nous aide beaucoup. Alors, elle doit prendre le temps de vaincre les craintes de sa communauté, mais elle parvient à convaincre les sœurs. Elle part avec 5 religieuses puis une novice pour commencer la fondation. Après les premiers aménagements, elle retourne à Tours pour terminer son mandat comme supérieure. À Angers, bien, la pauvreté est évidente. Dès les premiers jours, on reconnaît cette maison comme la maison du bon pasteur. Le bon pasteur, c'est quoi? Vous savez, c'est Jésus qui a raconté une histoire, une parabole. Il raconte qu'un bon pasteur, c'est celui qui quitte toutes ses brebis pour aller chercher celle qui est égarée, la plus pauvre. Et c'est ça qu'elle veut vivre. Elle veut aller chercher les femmes égarées, les plus pauvres, les plus désolées. Et pour Sainte Marie Euphrasie, c'est un grand rêve qui devient une réalité. Elle aura toujours devant les yeux les paroles du prophète Ézéchiel dans l'Ancien Testament. C'est très beau. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ferai revenir. Celle qui aura une patte cassée, je lui ferai un bandage. La malade, je la fortifierai. Je veillerai sur la brebis forte et en santé. Je serai un bon pasteur pour elle. Que c'est beau les textes d'Ézéchiel. Alors, aussi longtemps que Marie Euphrasie demeure à Angers, la fondation fonctionne très très bien. L'ouverture officielle a lieu le 31 juillet 1829. Alors, après son départ pour Tours, la maison a de la misère, ça fonctionne moins bien. En 1831, son mandat de supérieur le finit à Tours. C'est alors qu'elle revient à Angers. Elle est nommée supérieure par l'évêque de Tours, qui s'appelle maintenant Monseigneur de Mont-Blanc. Elle demeurera en fonction jusqu'à sa mort. Elle va fonder des maisons dans le monde entier. Je dis bien dans le monde entier. Peu après son retour à Angers, les sœurs, les filles, les femmes confiées à ses soins, là, se sentent vivre. Mais cependant, la souffrance est toujours présente. Car cette mission qu'elle a entreprise est enracinée vraiment dans la croix. Ça exige un total oubli de soi. Vous savez qu'il y a une maison un peu comme ça qui s'appelle la Maison Grise, fondée par sœur Dolores, que j'aime beaucoup. C'est une sœur grise. Ça s'appelle la Maison Grise, en souvenir des sœurs grises. Elle s'occupe comme ça des femmes. Et c'est merveilleux la transformation qu'elle réussit à faire. Son grand désir à Sainte Marie Euphrasie était de manifester la tendresse du bon pasteur au plus grand nombre possible de personnes blessées. Alors en juillet 1833, avec un zèle qui veut embrasser le monde entier, elle ouvre la section de la préservation. C'est une œuvre où les sœurs veilleraient avec tendresse sur des enfants, petites filles innocentes, qui sont issues de milieux douteux. Toutes ces petites filles, malheureuses, dans des milieux terribles. Une section pour orphelines fonctionne déjà, puis la section de réhabilitation est remplie à pleine capacité. Elle envisage déjà la fondation de la branche contemplative de la congrégation, qui deviendra comme un moteur priant de l'Institut. Alors, tous ces nouveaux champs d'apostolat s'établissent malgré une difficulté, celle de ne pas avoir de sœurs encore bien formées pour les diriger. C'est ça qui est très difficile de souvent de trouver des gens pour diriger, administrer, faire fonctionner ces choses avec beaucoup de tendresse, d'amour et de fermeté en même temps. C'est pas facile. Alors, fait donc appel au couvent de Tours puis à celui de Nantes, mais sans succès. Et dans son cœur, elle prie puis elle attend. Elle sait ce qu'elle veut, mais elle désire une confirmation de la part de Dieu. Alors, vers la fin de cette même année, 1833, elle accepte de fonder au Mans. On connaît le Mans, les courses du Mans, les courses d'automobiles. On connaît le Mans aussi quand on est plus amateur de grégorien, parce que c'est tout près du Mans qu'est la grande abbaye de Solesmes, la maison mère des bénédictins de la Congrégation de France, à laquelle appartient l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. Hein. Donc, elle accepte de fonder au Mans, M-A-N-S. Cet engagement, c'est le début de plusieurs sortes de fondations en dehors des frontières locales. Et de plus en plus, elle est convaincue que sans une maison mère et un gouvernement central, sa congrégation ne pourrait pas grandir et s'étendre au service d'Église. Alors, il y aurait un noviciat central, d'où les sœurs iraient en mission selon les besoins. Et il y aurait aussi un échange, donc, de personnel puis de biens entre les maisons. Alors, elle réfléchit longtemps sur la pensée de Saint Jean-Eudes, qui ne voulait pas que son œuvre soit statique et inerte. Alors, l'idée d'un généralat, d'une maison générale, d'un centre, quoi, grandit dans son esprit. Et son évêque, Monseigneur de Montoux, est d'accord avec elle. Il l'appuie auprès de Rome. Entre-temps, on ajoute un article aux constitutions d'alors, « Afin que toutes les maisons fondées par Angers dépendent d'elles. » Alors, c'est là qu'il y a le rassemblement. Il y a une tempête de protestations qui inonde les diocèses où les sœurs de Notre-Dame de Charité du Refuge sont établies. Et Sainte-Marie-Euphrasie est accusée de vouloir contrôler les couvents du Refuge qui sont autonomes. Mais rien n'est plus faux. Sa seule ambition, c'est quoi? C'est la gloire de Dieu, puis la possibilité d'aider un plus grand nombre de personnes. Alors elle souffre beaucoup, parce qu'elle affectionne sincèrement ses sœurs du refuge auquel elle appartient. Puis elle continue de les aimer. Elle trouve normal que ces femmes soient anxieuses à son sujet. D'autant plus que leurs conseillers spirituels, des hommes, des prêtres, ne comprennent pas les intentions, puis l'audace de Sainte-Marie-Euphrasie Pelletier. Alors, avant la décision de Rome, et pendant que la tempête est à son plus fort, en la fête de l'Assomption de 1834, donc le 15 août, elle écrit au Vatican une lettre qui commence par ces mots. « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. » Et elle termine ainsi, « Je ne désire que la plus grande gloire de Dieu. Si le souverain pontife et votre éminence voient quelques difficultés à établir le généralat, je me soumets humblement à votre décision. » Or, le cardinal Odescalchi, nom très connu à cette époque, cardinal qui était une sorte de saint, le cardinal Odescalchi accueille favorablement sa lettre. Il prie justement cette intention quand il reçoit ce message, qu'il considère comme une réponse du ciel. Alors, il va préparer une fondation dans la ville de Rome, mais pendant plusieurs années, il va veiller sur l'Institut de Sainte-Marie-Euphrasie Pelletier jusqu'à ce qu'il entre lui-même chez les jésuites. Imaginez, un cardinal qui entre chez les jésuites, c'est assez extraordinaire. Alors, le pape Grégoire XVI approuve le généralat, la maison générale, en janvier 1835, et donc la congrégation de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur vient de naître. En janvier 1835, le 16. De nombreuses candidates sont attirées par l'image du bon pasteur, miséricordieux, très aimant. Bien, elles demandent leur admission au noviciat. Car la figure de Jésus comme bon pasteur est vraiment une des plus belles images qu'on peut avoir hein, de Jésus, le bon pasteur. Ces femmes sont initiées à la spiritualité de la congrégation, à la dévotion aussi au cœur de Jésus et de Marie, qui était très très populaire à l'époque, particulièrement au moment de la Révolution française chez les Vendéens. Et dans cette congrégation, on prononce, comme j'ai dit, le vœu de zèle, qui prend sa source dans les cœurs de Jésus et de Marie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un esprit évangélique d'accueil, de bonté, de compréhension et de service aimant, qui témoigne qu'une personne vaut mieux qu'un monde. Une seule personne vaut plus que l'univers entier, que les millions ou les milliards de galaxies. Bien oui. Mais le comprend-on? Nous qui tuons nos enfants avant de naître, nous qui tuons d'un bout à l'autre de la terre pour toutes sortes de raisons idiotes et terribles. C'est effrayant ce siècle de mort. Des millions et des centaines de millions de morts. Oui, centaines de millions, oui. Terrible. En 1838, le cardinal de Scalchi, qui entre chez les jésuites, accueille chaleureusement les Sœurs du Bon Pasteur qui viennent fonder à Rome, au centre du monde catholique. Et Rome a une grande place dans le cœur de Sainte Marie Euphrasie Pelletier, la fondatrice. Elle déborde de joie. Quel privilège pour elle que celui d'établir sa congrégation dans la ville, justement, du pasteur en chef du troupeau du Christ, le pape, évidemment, pour être au service de l'Église, qui a confié à sa congrégation une part de sa mission de réconciliation. Alors, sœur Marie Euphrasie accompagne les sœurs qui ont été choisies pour cette nouvelle fondation, et le pape Grégoire XVI les reçoit en audience privée. Sa joie est au comble. Le pape remarque la transparence de son âme, sa simplicité, son grand amour pour les personnes privées d'espérance et d'amour. Et pendant les quelques années qui suivent, la congrégation s'étend où? En Allemagne, écoutez bien ça, en Suisse, en Autriche, en Hollande, et bientôt en Angleterre et en Irlande. Puis, des groupes de sœurs franchissent les océans, pour fondre, ou les mers, la mer Méditerranée, pour fonder en Égypte. Elles vont jusqu'en Arabie, en Inde, à Ceylan, aux États-Unis, au Canada, à Montréal, au milieu du siècle dernier, au Chili et en Australie. C'est fantastique, hein? Elle veille avec amour sur toutes les maisons de la congrégation, puis à sa mort en 1868, elle laisse 110 monastères bien organisés et plus de 2000 religieuses. Les milliers de lettres qu'elle écrit à ses sœurs montrent bien la tendresse extraordinaire qu'elle porte à chacune d'entre elles. Même si elle se réjouissait de l'extension de la congrégation, mais les moments de départ, évidemment, qui se répètent souvent, ça l'affecte. Hein? C'est comme une mère qui voit ses enfants partir. L'attachement des sœurs, d'ailleurs, à la maison mère, et spécialement à leur supérieur général, est profond et durable. Et même si elle vit au 19e siècle, Sainte Marie Euphrasie Pelletier voit clairement des dizaines d'années en avant de son temps. Sa vision est globale. Elle se manifeste psychologue née dans son comportement avec les jeunes. Elle avait étudié à l'école de l'Évangile, peut-on dire. Elle avait appris tout ce qu'elle savait des exemples du Christ Jésus dans ses relations avec les hommes, les femmes, les enfants. Elle conseillait à ses sœurs de s'adapter aux diverses circonstances. Elle dit à une ville, une fondation ne doivent pas satisfaire notre zèle. Notre zèle doit embrasser le monde entier. Notre cœur ne doit pas s'attacher à un petit coin de la terre. Quant à moi, je ne veux pas qu'on dise que je suis française. Je suis italienne, anglaise, allemande, espagnole, américaine, africaine et indienne. Je suis de tous les pays où il y a des âmes à sauver. Alors, épuisée par le fardeau de ses activités, par ses souffrances physiques et morales, particulièrement par l'antagonisme de l'évêque d'Angers, Mgr Angebault, de 1842 jusqu'à sa mort, aussi par la maladie, inconnue des sœurs, elle est courbée sous le poids des ans. Et Rose Virginie Pelletier arrive au terme de sa vie ici, pour entrer dans la vie éternelle. Le 24 avril 1868, elle va rencontrer Jésus. Son agonie dure plusieurs semaines. Cependant, jusqu'à la fin, elle console ses sœurs. Elle s'occupe encore des affaires et des intérêts de la congrégation. Et une de ses dernières décisions, c'est d'autoriser la fondation d'une maison du bon pasteur à Saint-Paul, au Minnesota. Au moment de l'Angélus sonné dans le pavillon central, le soir du 24 avril, elle meurt. Mais quelle belle rencontre ça a dû être. Quel accueil peut-on imaginer que le bon pasteur a dû lui réserver? Elle l'a servi fidèlement. Elle l'a servi généreusement. Tant auprès des sœurs du bon pasteur que des bienfaiteurs de tout l'Institut. Mais particulièrement, elle l'a servi auprès des personnes rejetées de son temps. Le pape Pie XI a béatifié cette Française originaire de l'île de Noirmoutier, Rose Virginie Pelletier, le 30 avril 1933. Et seulement 7 ans plus tard, le 2 mai 1940, lors de la première canonisation de son pontificat, oui, le pape Pie XII la met au rang des saints. Au rang des saints de l'Église catholique. Pendant que le chœur de la chapelle Sixtine chante « Sainte Marie Euphrasie Pelletier, priez pour nous ». Un jour, elle avait dit « Je serai religieuse, je sais très bien que je serai brisée, mais je serai quand même religieuse ». Aujourd'hui, la congrégation de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur compte environ 6000 religieuses actives et contemplatives. Elles sont réparties dans plus de 60 pays, en fait dans 63 pays, et qui sont divisées maintenant en 45 provinces. Chaque province est administrée par une supérieure provinciale. Le gouvernement central est à Rome, où réside la supérieure générale et son conseil. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la mission de cette congrégation, c'est encore la réconciliation. En plus des résidences pour le soin d'adolescentes et de jeunes femmes en difficulté personnelle, familiale ou sociale, il y a des œuvres diverses qui se multiplient d'accord avec les besoins du pays, puis des temps d'aujourd'hui. Des œuvres qui manifestent un très, très grand intérêt pour les personnes rejetées par la société. Des personnes qui ont besoin d'aide pour retrouver leur dignité d'enfant de Dieu, et pour aussi croire en l'amour que leur porte Jésus, le bon pasteur. C'est pas facile de croire que Dieu nous aime quand on est rejeté de tous, quand on n'est pas aimé. C'est très dur, très très dur. Sœur Marie Euphrasie Pelletier disait, vous n'aurez l'esprit de notre vocation que lorsque vous aurez les pensées, les sentiments, les affections du bon pasteur dont vous devez être les images vivantes. On pourrait signaler, comme je vous l'ai fait tout à l'heure, qu'il y a de nombreuses maisons des sœurs du bon pasteur ici, mais dans cette maison de la rue Sherbrooke-Est, situé au 170 Est rue Sherbrooke, 843-8833, 843-8833. On s'occupe des jeunes sans jeunesse, comme elles disent, souvent le cœur plein d'illusions, mais qui sont déjà désenchantées. Ces jeunes filles marginales, exclues de la société, qui voudraient aimer et être aimées, et qui sont tentées par le suicide, la drogue, la prostitution. Elles veulent s'occuper aussi dans d'autres maisons des femmes meurtries, qui vivent leur solitude au creux d'une étouffante promiscuité. Elles ont ici à Montréal des résidences, des maisons d'appartements au fond, deux, où ces femmes peuvent s'établir. Et c'est en solidarité avec toutes qu'il s'agit pour ces sœurs de les aider à se remettre debout, à découvrir en elles des possibilités nouvelles qui leur permettent d'exister à leurs propres yeux et aux yeux des autres, dans leur dignité d'enfant de Dieu. Alors dans la province de Montréal, les sœurs du bon pasteur sont engagées au niveau communautaire, paroissial et diocésain, au niveau social aussi, au niveau public et privé. Alors, dans tous les domaines, quel que soit leur rôle, les sœurs du bon pasteur veulent rejoindre directement ou indirectement tous ceux qui ont besoin de tendresse, de la grande tendresse de Dieu, la tendresse de Jésus bon pasteur. S'occupe surtout des jeunes filles et des femmes. Sainte Marie Euphrasie, vous dont la foi fut si grande, l'espérance si forte et l'amour si généreux, et la prière si persévérante, la compassion si profonde, vous qui restez si attentive à nos épreuves physiques et morales, nous vous demandons d'intercéder pour nous et pour les personnes qui vous confient leur cause. Obtenez-nous de la miséricordieuse bonté de Dieu et par la médiation de Notre-Dame, les grâces promises à ceux qui s'unissent dans une prière confiante et abandonnée. Amen.